VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir et bienvenue, il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide dans votre compagnie. Très content de vous retrouver dans le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À la une en ce vendredi 23 novembre 2018. En RD Congo, les autorités du Kasaï confirment l'enlèvement de deux membres du parti du président Kabila. Au Burundi, la composition de la commission Vérité fait des remous.
M. Pierre Claver est chargé, il n'a aucune qualité pour conduire les travaux d'une commission aussi importante.
Des Gabonais dans la rue pour protester contre ce qu'ils appellent la manipulation de la Constitution. En Afghanistan, une trentaine de morts environ dans l'attaque d'une mosquée d'une base de l'armée. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Kasaï central a confirmé ce vendredi l'enlèvement de deux militants du parti présidentiel PPRD, mais pas celui d'un troisième, ni leur décapitation. Les deux militants sont des membres de l'équipe de campagne de Richard Ilunga, candidat PPRD aux législatives. Ils ont été enlevés la semaine dernière à Dibaya, d'après le gouverneur Denis Kambayi. Je refuse de parler de leur mort car les recherches sont en cours pour les retrouver, a-t-il poursuivi. Quant au fils d'une des victimes présumées, il maintient que son père a été décapité avec deux autres militants par des miliciens alors qu'il battait campagne pour le PPRD. Le ministre congolais de l'Intérieur, Henri Mova, a déclaré hier ne pas pouvoir confirmer les faits. Toujours en vue du scrutin prévu le 23 décembre prochain, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est désisté de la course à la présidentielle pour former un ticket avec un des autres poids lourds de l'opposition, Félix Tshisekedi. Les deux leaders étaient en discussion depuis leur retrait de l'accord de Genève qui avait désigné le 11 novembre dernier Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition. Une annonce surprise faite lors d'une conférence de presse conjointe à Nairobi. De Kinshasa, Thierry Kambundi de notre radio partenaire Top Congo FM.
Depuis le retrait de leur signature de l'accord de Genève, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, tous deux candidats à la présidentielle du 23 décembre 2018, étaient en discussion pour désigner un candidat unique que leurs deux partis, l'Union pour la Nation Congolaise et l'UDPS Tshisekedi, soutiendraient le jour du scrutin. Les discussions débutées à Bruxelles en Belgique se sont poursuivies et achevées vendredi après-midi à Nairobi au Kenya. Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS Tshisekedi, a donc été désigné candidat unique des deux partis, l'UDPS Tshisekedi et l'UNC, et de tous les partis de l'opposition qui partagent la volonté du changement, indique le communiqué qu'ils ont signé conjointement. Vital Kamerhe se retire donc de la présidentielle et s'engage à soutenir, sans parti avec lui, la candidature de Félix Tshisekedi. Les deux leaders sont attendus mardi à Kinshasa pour officialiser ce mariage. Ils annoncent par ailleurs un grand meeting dans la capitale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le député et ex-chef de milice centrafricain Alfred Yekatom, surnommé Rambo, a comparu pour la première fois ce matin devant la Cour pénale internationale. Il a été transféré à la Haye il y a une semaine. Il affirme avoir été torturé pendant sa détention à Bangui. Compte rendu, Abdourahman Dia.
Alfred Yekatom, accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, qualifie son arrestation d'arbitraire. Son avocat, Xavier Jean Keïta, affirme qu'il a été torturé et a reçu des coups de crosse et de kalachnikov dont il porte encore des traces à son pied droit, comme l'a constaté l'équipe médicale du centre de détention de la CPI. Il s'agit d'une violation de ses droits fondamentaux, a poursuivi son avocat. Alfred Yekatom, 43 ans, a entendu les charges portées contre lui, dont des accusations de meurtre, déportation, torture, persécution et emprisonnement. Des faits qui se seraient déroulés entre 2013 et 2014. L'audience de confirmation des charges est fixée au 30 avril 2019. Alfred Yekatom, alias Rombo, a été arrêté le 29 octobre après avoir tiré un coup de feu dans l'hémicycle. C'est le premier transfèrement vers la CPI depuis l'ouverture de l'enquête sur la Centrafrique en septembre 2014.
Une centaine de Gabonais ont protesté ce vendredi à Libreville contre ce qu'ils qualifient de manipulation de la Constitution modifiée par la Cour constitutionnelle afin de pallier l'absence du président Ali Bongo hospitalisés depuis un mois à Riyad. Des syndicalistes, des étudiants et des membres de partis politiques se sont réunis durant une demi-heure, encadrés par les forces de l'ordre lors de cette manifestation qui avait été interdite par le ministère de l'Intérieur, dénonçant l'opacité qui règne à la tête de l'État. L'ex-premier ministre Jean Eyege Ndong, membre de la coalition pour la Nouvelle République, a réclamé l'application de l'article 13 de la Constitution, selon lequel le président empêché doit être remplacé par la présidente du Sénat. D'après lui, hier, lors d'un autre rassemblement interdit d'une vingtaine de personnes, 9 manifestants ont été arrêtés. Ils sont toujours détenus pour enquête par la police pour trouble à l'ordre public. L'armée française affirme avoir mené la nuit dernière une opération dans le centre du Mali qui a permis, d'après elle, la mise hors de combat d'une trentaine de terroristes. La ministre des Armées, Florence Parly, a salué une action d'ampleur complexe et audacieuse qui a permis de neutraliser un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad Agrali, Amadoun Koufa, chef de la Katiba Massina. Ce sont les mots de la ministre. Les avocats de l'État ivoirien veulent que le procès de Laurent Gbagbo devant la CPI aille à son terme, afin de pouvoir notamment entendre les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. La défense de M. Gbagbo a demandé en octobre au juge de la CPI de prononcer un non-lieu total dans le procès contre l'ex-président ivoirien en détention depuis 7 ans à La Haye. Il est accusé, ainsi que Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à l'ancien président, de crimes contre l'humanité. La branche de Boko Haram, qui a prêté allégeance au groupe État islamique, a revendiqué la mort de 118 soldats au cours d'une série d'attaques perpétrées la semaine dernière dans la région du lac Tchad et particulièrement au Nigeria. L'État islamique en Afrique de l'Ouest affirme avoir mené 5 opérations au Tchad et au Nigeria entre le 15 et le 21 novembre. Dans une vidéo reprise par le site de surveillance américain SITE, les indications des bases militaires ou des lieux de combat restent floues dans la revendication. Et justement, au Nigeria, l'opposition monte au créneau et demande des comptes au gouvernement sur sa gestion du conflit dans le nord-est du pays contre Boko Haram. Le groupe intensifie ses attaques et a tué au moins 44 soldats au cours du week-end, notamment lors d'un assaut contre une base militaire dans le village de Métélé, à la frontière avec le Niger. Mais le chiffre exact n'a pas pu être confirmé dans les médias. Atiku Abubakar, le candidat du Parti populaire démocratique à la présidentielle de février l'an prochain, qui affrontera le président Muhammadu Buhari, a envoyé un message de condoléances aux familles des victimes et a dénoncé le manque de moyens dont souffre l'armée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, en Afghanistan, au moins 26 personnes ont été tuées dans un attentat commis ce vendredi contre une mosquée située dans une base de l'armée dans l'est du pays. Une cinquantaine d'autres ont été blessées. Morgane Guiriec pour les détails.
Le kamikaze s'est fait exploser dans la mosquée au début de la prière. Toutes les victimes sont du personnel militaire, indiquent les autorités de la province de Khost. Le président Ashraf Ghani a condamné cette attaque terroriste menée par les ennemis de l'Afghanistan, la qualifiant d'anti-islamique et inhumaine. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les attaques contre les mosquées ont le plus souvent été endossées par le groupe État islamique. Il survient 3 jours après un autre attentat suicide, également non revendiqué, mardi à Kaboul, lors d'un rassemblement religieux pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Au moins 55 personnes ont été tuées et 94 blessées. Les talibans ont fermement condamné cette attaque. Depuis 2015, les forces afghanes ont pris le relais des troupes de l'OTAN. Près de 30 000 soldats et policiers afghans ont été tués, a révélé le président Ashraf Ghani.
La guerre au Yémen, l'émissaire de l'ONU appelle les belligérants à maintenir la trêve et protéger les civils à Hodeïda. Martin Griffiths évoque ce vendredi de futurs pourparlers en vue d'un rôle majeur de l'ONU dans ce port vital. Il s'exprimait depuis la ville de Hodeïda, principal front de la guerre, où il effectue sa première visite depuis sa nomination à son poste en février dernier. L'émissaire de l'ONU cherche à organiser des consultations de paix en Suède entre pouvoirs et rebelles pour lesquels il n'a pas encore fixé de date. Les États-Unis ont indiqué qu'elles auraient lieu début décembre. Des garanties de dernière minute exigées par Madrid sur le sort de Gibraltar représentent désormais le dernier obstacle à un accord global sur le Brexit à deux jours d'un sommet extraordinaire à Bruxelles. Les négociateurs des 27 et du Royaume-Uni ont bouclé un accord sur le traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne prévu le 29 mars prochain et sur la déclaration politique ébauchant leur relation post-Brexit qui y sera jointe. Mais un imbroglio autour du territoire de Gibraltar reste la seule question encore ouverte avant le sommet de dimanche censé clore les négociations. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité économique avec Nani Talani.
Cette semaine, la tente du café est tombée à 1 615 $, son plus bas niveau depuis début octobre. Selon le Coffee Network, le surplus de café pourrait atteindre 11 millions de sacs cette année, soit le surplus le plus important en 16 ans. Le cacao est tombé à son plus bas niveau depuis un mois avec une tonne qui coûte entre 1 585 $ et 2 124 $. Le sucre s'est mieux tenu grâce à une production mondiale en déclin, passant de 195 millions de tonnes l'année dernière à 186 millions pour 2018-2019. Le Soudan du Sud va recevoir de l'Afrique du Sud environ 1 milliard de dollars en faveur de son industrie pétrolière. Les fonds seront consacrés à la construction d'une raffinerie et de l'éoducs, à l'exploration pétrolière et à la formation d'ouvriers et d'ingénieurs. Cette raffinerie aura une capacité de production de 60 000 barils de pétrole par jour. Terminons avec les cours du pétrole qui viennent de chuter de plus belle dans un marché menacé par la surproduction à deux semaines d'une réunion de l'OPEP où les Saoudiens seront sous forte pression américaine. La référence américaine du pétrole cotait 51 $, alors que celle européenne, le Brent, cotait 59,74 $. Les cours de ces deux références de l'or noir n'ont pas coté aussi bas depuis plus d'un an.
Et maintenant, résumé de toute l'actualité sportive du jour, je passe le relais à Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
La finale aller de la Coupe de la CAF se joue ce dimanche.
Oui, ce sera à Casablanca entre le club marocain du Raja et l'AS Vita Club de la RDC. Pour peaufiner leur préparation, les Congolais séjournent à Casablanca depuis lundi dernier. Adaptation aux conditions climatiques, à l'état de la pelouse, tout est de mise. V-Club, bien que plusieurs fois titré en championnat, ne possède pas un riche palmarès africain si ce n'est une Ligue des champions remportée en 1973. L'arbitrage vidéo sera au service des arbitres durant cette finale, une première dans l'histoire de la compétition.
Patrice Carteron a été limogé d'Al Ahly.
Maintenu en poste malgré l'échec en finale de la Ligue des champions, l'entraîneur d'Al Ahly a été viré à la suite de l'élimination en huitième de finale de la Coupe arabe des clubs contre les Émiratis d'Al Wasl. Arrivé en juin dernier en Égypte, Patrice Carteron s'en va sur un bilan de 12 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Mohamed Youssef a été nommé entraîneur intérimaire d'Al Ahly.
Après Salah, Mané blindé à son tour.
Oui, après avoir déjà prolongé Roberto Firmino et Mohamed Salah jusqu'en 2023, Liverpool a annoncé que le troisième membre de son trio offensif, Sadio Mané, a lui aussi rempilé pour une longue durée. D'après Sky Sport, l'international sénégalais a prolongé jusqu'en juin 2023, comme ses deux compères. Arrivé chez les Reds en 2016, l'ancien joueur de Génération Foot a inscrit 40 buts en 88 matchs avec le club anglais, marquant notamment lors de la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid 3-1.
Prolongation également pour Kanté avec Chelsea.
L'international français d'origine malienne est désormais lié aux Blues jusqu'en juin 2023. En plus de sa prolongation, le milieu de terrain franco-malien voit son salaire doublé, passant de 8,7 millions à 17,5 millions d'euros par an. N'Golo Kanté devient le joueur le mieux payé de l'histoire du club devant Eden Hazard et le troisième joueur le mieux payé de la Premier League.
Et puis Yacouba, Pogba est de retour avec Manchester United.
Paul Pogba fait son retour dans le groupe des Red Devils contre Crystal Palace demain, après une blessure à une cuisse qui l'a éloigné des pelouses. José Mourinho enregistre aussi le retour d'Anthony Martial, qui s'est rétabli d'une gêne aux adducteurs. Le manager du Man U peut compter donc sur un groupe au complet pour se relancer contre Crystal Palace après une défaite 3-1 dans le derby mancunien face à City.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À mi-chemin de votre magazine d'actualité, vous le savez, on passe maintenant à notre tranche magazine. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Le député centrafricain et ex-chef de milice Alfred Yekatom, surnommé Rambo, a comparu pour la première fois devant la Cour pénale internationale ce vendredi. Il a entendu les charges portées contre lui, dont des accusations de meurtre, déportation, torture, persécution et emprisonnement. L'audience de confirmation des charges est fixée au 30 avril de l'an prochain. Le député Alfred Yekatom a été transféré à la Haye il y a une semaine. Idriss Fall a recueilli la réaction de Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme à Bangui.
Étonné de la manière avec laquelle on a envoyé Alfred Yekatom à la Haye. Nous avons la cour d'appel de Bangui, la cour d'appel de l'Ouest à Boire, la cour d'appel de l'Est à Bambari, qui sont aujourd'hui fonctionnels. L'endroit où se sont passés les faits qui sont censés être reprochés à Yekatom Alfred sont des faits qui relèvent bien de la cour d'appel de Bangui, qui aurait pu être jugé. Nous avons en plus de ces tribunaux une cour pénale spéciale dont les juges sont déjà nommés. Il avait été signalé que c'est lorsque les juridictions nationales sont dépassées, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent faire appel à la cour pénale internationale.
Yekatom lui-même, on le transfère alors qu'il est député à l'Assemblée nationale.
Oui, non seulement Yekatom Alfred avait été arrêté par le parquet de Bangui, du tribunal de grande instance de Bangui, il avait été placé sous mandat de dépôt avec des chefs d'inculpation qui lui étaient reprochés et il attendait de répondre de ça devant les tribunaux centrafricains. Avant, l'Assemblée ne s'est même pas réunie pour lui retirer son immunité. Et de telle sorte que hier, quand on a voté la loi de finances pour l'année 2019, on a appelé le député Alfred Yekatom pour qu'il aille voter. Le 17, 6 jours après, on est venu le chercher pour le ramener à la Haye. Ça a surpris beaucoup de gens.
Mais la Centrafrique a des chefs de guerre beaucoup plus méchants, choses et qui n'ont jamais été arrêtés ni transférés, notamment ce qui s'est passé la semaine dernière à Lindao.
Voilà, là où le bas blesse, c'est qu'au moment où on transfère Fred Yekatom à la Haye, des villes comme Alindao étaient en train de brûler. On a compté, au moment où il prenait l'avion, environ 40 morts, parmi lesquels un vicaire et un prêtre qui ont été tués, brûlés dans leur église. Et au même moment, la ville de Batanafo était à feu, le camp des personnes déplacées était brûlé, la ville de Bambari était totalement à feu, et c'est à ce moment-là que on choisit la partie la moins agressive de ces combats que nous connaissons ici pour envoyer à la Haye. Il y a un problème, et je crois que les gens aujourd'hui ne supportent pas ça, et disent que la Cour pénale internationale a perdu de sa crédibilité. Et on dit ici que la Cour pénale internationale veut se rattraper dans les décisions rendues dans l'affaire Bemba, où après avoir bitumé quelqu'un pendant 10 ans, on est venu constater qu'il n'avait rien à se reprocher. Et les gens pensent aujourd'hui, en venant chercher un autre déclaré comme chef de guerre, peut-être que ça fait amende honorable.
On écoutait Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Il était joint à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Retour sur la polémique autour de la commission Vérité et Réconciliation au Burundi. Elle est également connue comme la CVR. La nouvelle composition approuvée hier par le Parlement est rejetée par l'opposition, notamment la nomination à sa tête de l'ancien président de la commission électorale, Pierre Claverne Dacha-Yirkié. Que lui reproche-t-on exactement? Pour des éléments de réponse, Nanit Talani s'est entretenue avec l'avocat Emmanuel Gengroutse, ancien sénateur et membre de l'UPRONA, l'Union pour le progrès national.
Oui, M. Pierre Claverne-Dacha-Yirkié était président de la Commission nationale indépendante et on connaît le bilan catastrophique de cette CENI. Et depuis 2010, n'est-ce pas, ce sont des élections qui ont été ni transparentes, ni crédibles, ni donc acceptables. est-ce que cet homme est capable, il va conduire la même chose à la CDR, parce qu'il n'a aucune qualité pour conduire les travaux d'une commission aussi importante. Donc, passé ne le qualifie pas pour être. C'est tout à fait le contraire du profil qu'on aurait dû souhaiter.
D'après vous, qui aurait été la personne la mieux désignée pour diriger la commission Vérité au Burundi?
Je ne peux pas la nommer par ses noms propres. C'est à partir des profils d'impartialité, d'indépendance, de compétence, d'honnêteté qu'on pourrait choisir les membres de la commission. Ben Chalié, il a tant de événements malheureux qui ont frappé le Burundi, qui ont engendré des crises politiques majeures et engendré des violations systématiques des droits de l'homme. Et là, il ne peut pas, absolument pas, faire partie d'une commission qui puisse nous rapporter la vérité de notre histoire. Il est l'allié d'un groupe d'auto-extrémistes qui tiennent à raviver l'histoire malheureuse. La confrontation ethnique et par conséquent les guerres tiennent à résoudre. Il y a une partie de l'histoire burundaise, n'est-ce pas, qui incombe aux Burundais eux-mêmes. Il y a les responsables burundais qui doivent assumer leur histoire. C'est pourquoi on a dû dire, depuis que nous sommes indépendants en 1962, nous allons savoir la vérité de notre histoire. Ceux qui sont responsables des crimes parmi les Burundais, et après on saura quelle vérité et quelle justice faire et les réparations envers les victimes à faire. Tout ça, c'est maintenant occulté par le pouvoir du CNDD-FDD. On va tout mettre sur le dos des Belges, des anciens colonisateurs.
L'avocat Emmanuel Gengurutse, ancien sénateur et membre de l'Union pour le Progrès National, il était en ligne de Bujumbura.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Cap maintenant sur le Cameroun où des entreprises tentent de profiter pleinement des énergies renouvelables. C'est le chemin qu'a choisi une start-up appartenant à l'entrepreneur Bouma Mohamed qui veut vulgariser la production et l'usage du biogaz. Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques comme les déchets alimentaires, agricoles et les excréments d'animaux en l'absence d'oxygène. Le point avec Irénée Hermanoumbo.
Des déchets bio comme les excréments de porc pourraient faire la différence entre la vie et la mort. L'entrepreneur camerounais Bouma Mohamed, conscient de ce fait, s'est décidé à initier les jeunes camerounais aux techniques de transformation de ces déchets en biogaz, une alternative moins coûteuse et renouvelable.
Imaginez que des bébés sur le dos de leur mère passent 4-3 heures par jour dans la cuisine à inhaler la fumée de la cuisine. Elles pénètrent dans leurs poumons, dans leurs yeux. Ils souffrent par la suite d'infections oculaires, de problèmes respiratoires. Certains enfants meurent, des bébés en meurent, puis on attribue la cause des décès à la sorcellerie et autres, alors que c'est à cause de la pollution causée par le bois de chauffe et sa fumée.
Selon la Banque mondiale, environ 80% de la population rurale du Cameroun utilise le bois ou le charbon de bois pour répondre à ses besoins en énergie. L'entreprise de Mohamed est à la pointe de l'installation d'une solution alternative, les biodigesteurs qui capturent le méthane que libèrent les déchets en décomposition. Il enseigne à ses jeunes comment construire ces machines seulement à 15 000 francs CFA, soit environ 26 dollars américains. Bouma Mohamed.
Nous ne les fabriquons pas pour eux. Nous voulons plutôt transformer la société afin que chacun puisse être en mesure de pouvoir fabriquer la machine.
Marcel Dakoua est l'un des apprentis de Bouma Mohamed.
Nous sommes dans une société en Afrique, une société où il y a beaucoup d'insalubrité, une société où il y a beaucoup d'énergie, comme on dit.
J'ai la technologie du biodigesteur juste pour la production.
Il envisage d'utiliser ses nouvelles connaissances pour produire de l'énergie renouvelable pour son entreprise de technologie.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'insomnie.
On parle d'insomnie lorsque l'on a des difficultés à s'endormir à l'heure du coucher, lorsque l'on fait des réveils nocturnes fréquents ou prolongés, ou quand on se réveille prématurément le matin avec une incapacité à retrouver le sommeil.
Pour en parler, nous recevrons Emmanuel Epeng, neurologue en RDC. Il nous donnera des astuces pour éviter l'insomnie.
Nous écouterons le témoignage d'une insomniaque qui nous racontera ses difficultés quotidiennes. Nous donnerons aussi la parole à un psychologue.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Et avant de clore cette édition, c'est une tradition bien américaine. Des millions d'acheteurs prennent d'assaut les magasins au lendemain de la fête de Thanksgiving. Ces clients sont à la recherche des meilleurs soldes de l'année. Les basses températures records et la concurrence sur Internet n'ont pas découragé les inconditionnels de ce qu'on appelle ici le Black Friday, comme nous le détaille Abdourahman Zia.
Les États-Unis n'avaient pas connu un Black Friday aussi froid depuis des décennies. Mais aussitôt après avoir dégusté la dinde rôtie, le plat traditionnel de Thanksgiving, ces Américains se précipitent devant les centres commerciaux, espérant être parmi les premiers à profiter des remises alléchantes offertes par les magasins. Sam Levy est un habitant de New York.
En fait, ça vaut le coup d'attendre. Il fait un froid glacial. Mes mains sont glacées, mais ça m'est égal. C'est une excellente opportunité. On peut économiser de l'argent et c'est super d'être ici.
Le Black Friday marque le début d'un mois d'achats frénétiques en vue des fêtes de Noël et de fin d'année. Selon les prévisions, les Américains vont dépenser plus de 40 milliards de dollars cette année. Et pour les grands magasins, c'est la période la plus fructueuse de l'année. Donc, ils rivalisent dans leurs offres. Cathy Hilt, une responsable du magasin Macy's.
Et c'est un moment hyper important pour nous, car nous démarrons notre saison des fêtes. Nous brillons durant les fêtes et nous célébrons avec des dizaines de milliers de clients. Cette année ne sera pas différente. Nous arrêtons tout pour offrir des cadeaux à bon prix.
Et pourtant, ces magasins font face depuis quelques années à une baisse continue de leur chiffre d'affaires pendant le Black Friday, à cause notamment de la concurrence des géants de la vente sur Internet comme Amazon. Les Américains ont déjà dépensé sur Internet plus de 4 milliards de dollars depuis mercredi. Mais pour ces clients, il y a une grande différence entre acheter en ligne et faire ses courses dans les magasins.
Quand vous faites vos achats physiquement, vous voyez des fois des choses que vous n'aurez pas vues sur Internet, parce que vous n'allez pas surfer sur chaque page après tout. Ensuite, il y a l'expérience, les gens, l'atmosphère, c'est une expérience superbe. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir sur Internet.
On veut juste profiter de la foule, profiter de la saison. La moitié du plaisir, c'est de se retrouver au milieu de la foule.
Cette année pourrait bien battre tous les records en termes de dépenses pendant la saison des fêtes, grâce notamment à la bonne santé de l'économie qui se traduit par un taux de chômage de moins de 4% et des ménages qui, en moyenne, gagnent plus.
Le Monde aujourd'hui, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'information. Les nouvelles du monde, le suivi de l'actualité africaine, des reportages, des interviews, des analyses sur les sujets qui vous concernent. En direct de Washington, nous décryptons pour vous la politique américaine. Le Monde aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30, temps universel sur VOA Afrique. Retrouvez-nous également sur notre site internet voafrique.com et sur Facebook. À bientôt.
Et voilà, point final à ce numéro du vendredi du Monde Aujourd'hui, votre magazine d'actualité sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.